Bonjour Nicolas.
Bonjour Marie.
Donc tu es salarié au Buzuc à Morlaix. Est-ce que tu peux nous présenter tes missions, s'il te plaît ?
Bien sûr. Ça fait 2 ans que je suis coordinateur du Buzuc, qui est la monnaie locale du pays de Morlaix. Et donc, mes principales missions, c'est de développer le réseau des utilisateurs de cette monnaie locale, qui sont des acteurs qui s'engagent à faire circuler une monnaie qui partage une charte de valeurs. Donc en gros, quels sont ces acteurs ? C'est les citoyens du territoire, ce qu'on appelle les professionnels, mais qui sont les commerçants, les commerçantes, les producteurs, les productrices, des PME, des artisans, et des associations du territoire également. Et enfin, les collectivités aussi, qui peuvent apporter un réel soutien pour cette démarche citoyenne. Et en fait, tous ces acteurs-là, font circuler une monnaie locale, sur le pays de Morlaix. Donc, une de mes principales missions, c'est de développer ce réseau-là, c'est-à-dire d'aller voir des professionnels pour leur parler de ce projet-là, d'organiser des animations, des ateliers, des petites conférences pour essayer de faire de l'éducation populaire auprès du grand public, d'essayer d'échanger aussi avec les associations du territoire, etc. Donc voilà, il y a une grande partie de mon travail qui est de faire ça. Et après, il y a la gestion de la monnaie en elle-même. Donc le Buzuc, c'est une monnaie locale qui existe sous 2 formes actuellement. Donc il y a les billets, les billets Buzuc qui vont 1, 2, 5, 10 et 20 Buzuc. Et le Buzuc numérique, qui est la version de la monnaie locale dématérialisée, donc qui fonctionne avec une application sur smartphone. Et donc, il faut gérer en fait la circulation de cette monnaie-là, donc essayer de faire en sorte que les citoyens puissent avoir des billets, que les professionnels puissent se payer entre eux, que les professionnels puissent reconvertir des Buzuc en euros quand ils en ont besoin, etc., etc. Donc ça demande pas mal de logistique derrière tout ça, donc je travaille aussi beaucoup là-dessus. Et à côté de ça, donc pour le rôle de coordinateur qui est un peu couteau suisse,
oui.
Il y a toute une partie communication, un peu de graphisme aussi, création de site web, gestion des équipes bénévoles, donc voilà, essayer de même voilà créer des moments de convivialité, essayer de créer un agenda qu'on puisse partager, de mobiliser des bénévoles pour des événements, et il y a aussi toute une partie recherche de subventions, financement, tout ce qui fait le quotidien d'une association lambda. Avec en plus cette spécificité qui est en effet la monnaie, qui est un petit peu qui apporte son lot de travail spécifique, quoi.
Et justement, à quoi ça sert le Buzuc ? Quels sont les intérêts pour le consommateur d'utiliser la monnaie locale ?
L'intérêt, ça peut être en fait premièrement de réfléchir à sa consommation, à son parcours de consommation, et essayer peut-être de le modifier. En fait, c'est une première approche. C'est qu'en fait, en utilisant le Buzuc, il y a une première contrainte qui s'impose à nous, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser partout. Et c'est une contrainte qui est vraiment la force d'une monnaie locale, c'est qu'en fait, on peut l'utiliser que dans un réseau d'acteurs engagés. Et bien, de fait, on modifie son parcours de consommation. Donc on va consommer, dans les commerces, des maraîchers, je sais pas moi, un peu de tout. Ça va même, on peut aller chez le coiffeur, on peut faire appel à un élagueur, on peut faire appel à un comptable, il y a tout,
on peut adhérer à Éco-Breton.
On peut adhérer à ces assos, voilà.
Il
y a vraiment, il y a beaucoup de choses. Mais en fait, tout ça, on est dans un cercle d'acteurs qui s'engagent et qui partagent une charte de valeurs communes. Et ben c'est quelque chose d'assez libérateur, qui fait du bien et qui nous amène à réfléchir à notre parcours de consommation et à rencontrer des commerçants qu'on connaissait pas, et en fait même à avoir un échange différent avec eux. Souvent le premier retour qu'on a des utilisateurs du Buzuc, c'est que en sortant des billets Buzuc face à un commerçant, en fait l'échange est altéré, c'est plus le même. Ça engage, il y a une discussion, un échange qui s'engage, qui est un peu différent. Et c'est pour ça qu'on a choisi ça comme slogan de notre monnaie. C'est le Buzuc, c'est la monnaie qui crée du lien. Et en fait, c'est ce qui nous apparaît comme le plus important. c'est d'essayer de recréer du lien social. Et la monnaie, c'est un vecteur de lien très fort, en fait. La monnaie, c'est vraiment un vecteur de enfin, c'est un vecteur d'échange, en fait, dans une communauté. Les humains, très, très vite, s'organisent en société. Et en fait, la monnaie, elle existe sous plein de formes différentes, hein, que ce soit des coquillages qu'on échange, etc. Mais voilà, ça fait partie des échanges humains, en fait. Nous, notre monnaie, elle est humaine dans le fait qu'on vient échanger avec nos commerçants, les commerçants du territoire, etc., prendre le temps. Ça, c'est quelque chose d'assez fort. Donc ça, c'est un premier pan de la monnaie locale qui vise donc à essayer de réfléchir à son parcours de consommation. Après, il y a un deuxième aspect qui est un peu plus économique, systémique, on va dire. C'est qu'en fait, la monnaie locale vient nous faire réfléchir à notre système économique et à notre système bancaire, surtout. Comment ? Alors, je vais prendre un exemple. Vous échangez 1 euro contre un buzuk. L'association vous donne un buzuk, du coup, un billet, voilà, un buzuk, et vous pouvez aller le dépenser dans le réseau des acteurs engagés. Donc voilà, vous avez un buzuk à dépenser sur votre territoire, donc c'est super, c'est une action individuelle, un petit éco-geste. Vous allez donner du chiffre d'affaires chez un acteur engagé du territoire, grâce à votre buzuk. Mais l'euro que vous avez donné à l'association en échange de ce buzuk, eh bien, lui aussi va jouer un rôle, parce que l'association va le déposer dans un établissement financier qui s'appelle la NEF, qui est le seul établissement financier en France qui publie l'ensemble de ses financements, donc c'est le seul à être transparent. Eh bien, la NEF, elle s'engage à financer des projets à caractère social, culturel ou écologique sur notre territoire, avec 7 euros-là. Donc en fait, d'habitude, on a 1 euro dans notre portefeuille qu'on va aller dépenser dans notre parcours de consommation. Là, grâce au buzuk, on a un buzuk dans notre portefeuille et 1 euro qui va aller financer des projets à vocation sociale, écologique, culturelle sur le territoire. Donc en fait, il y a ce pouvoir-là qu'apporte la monnaie locale, qu'on appelle le dédoublement de la monnaie, qui a un pouvoir d'agir super important pour les citoyens, et qui vient faire le lien entre l'action individuelle et l'action collective. Parce que tous les buzuks qui circulent sur notre territoire, ils ont un équivalent en euros, qui est à la NEF, et en fait cet équivalent en euros sert à financer des projets sur notre territoire. Donc voilà, c'est vraiment l'action parcours de consommation individuelle, et puis action collective, tous nos buzuks, voilà, nous, réseau, eh ben, il sert à financer des projets. C'est le dédoublement de la monnaie, et c'est ça le cœur de la monnaie locale.
Ouais, ça favorise les circuits courts aussi, parce que enfin, j'imagine que le commerçant, il peut s'approvisionner auprès du producteur en buzuk également, donc ça peut créer une petite filière, entre guillemets.
Exactement. En fait, la monnaie locale, elle a comme contrainte de pouvoir être utilisée chez des acteurs qui font partie du réseau, donc ils doivent signer une charte, donc c'est, voilà, ils s'engagent. Et en fait, elle peut circuler que sur un territoire qui est délimité. Donc le buzuk, il circule sur le pays de Morlaix. Ce territoire délimité, du coup, mon billet, je ne peux pas aller l'utiliser à Brest, à Paris ou à Singapour. Je dois l'utiliser sur le pays de Morlaix. Du coup, tous les commerçants qui reçoivent des buzuks de la part des citoyens, eux, à leur tour, ils vont faire la même chose que le citoyen qui a fait son action individuelle. Ils vont essayer de trouver, en fait, où est-ce qu'ils peuvent dépenser leur buzuk. Donc, ils vont trouver forcément sur le pays de Morlaix, donc ça va encourager les circuits courts à se créer, tous ces liens à se former, pour essayer de créer ce petit écosystème, en fait, et c'est là où en fait, on retrouve encore la fonction de la monnaie, qui est de servir de vecteur pour ces échanges entre les différents acteurs économiques. On va essayer de créer cet écosystème de liens sur notre territoire. Et ça vient enrichir notre territoire. Pourquoi ? Parce qu'un euro, quand on dépense un euro dans un commerce, très vite, en fait, notre euro, il quitte notre territoire, le pays de Morlaix. Il va se retrouver sur un compte en banque, et sur ce compte en banque, il va partir très vite, au-delà du pays de Morlaix, en fait. Parce qu'on va l'utiliser en ligne, on se déplace, etc. Je ne vais même pas rentrer dans le détail de ce qui se passe quand notre euro est en banque, parce que là, c'est un autre monde qui s'ouvre. Mais voilà, le buzuk, lui, il ne peut pas quitter le territoire, en fait. Donc, en fait, on vient à chaque fois apporter du chiffre d'affaires à un autre acteur économique. Et en fait, les acteurs économiques entre eux, ils s'apportent du chiffre d'affaires, en fait. C'est de la solidarité sur un territoire, et ça enrichit notre territoire. Donc c'est vraiment, c'est un outil que je trouve super, super puissant, parce que c'est un outil citoyen, donc c'est vraiment une démarche citoyenne, donc n'importe qui adhère au buzuk, peut venir aux réunions, peut décider un jour de proposer une nouvelle règle à cette monnaie-là. Donc voilà, c'est une monnaie citoyenne qui est gouvernée par les citoyens du territoire, donc ça c'est super important.
Et donc, comment est-ce que tu es arrivé à Morlaix ? Parce que être coordinateur de Morlaix local, c'est quand même pas anodin, ça court pas les rues. Qu'est-ce qui a fait que tu es là aujourd'hui?
Donc en fait, moi je suis pas de ce territoire du tout. Je suis là seulement depuis 3 ans. À l'origine, je viens de la région parisienne. Et en fait, c'est un peu un concours de circonstances, mais je me suis retrouvé à Morlaix, confiné, chez mes beaux-parents. Ma compagne est morlaisienne. Et en fait, on s'est retrouvé confiné là-bas. Et malgré ce contexte un petit peu voilà, tendu, inédit, un petit peu anxiogène, ben en fait, c'était super sympa. Parce que contrairement à ce mois d'août 2023 un petit peu pourri au niveau de la pluie, il faisait super beau. Et ben en fait, j'ai adoré découvrir ce territoire-là, me poser, prendre le temps d'aller chez voilà, un petit un maraîcher pour aller... comme on avait le droit de sortir pour aller faire des courses, et ben on en profitait pour aller faire des courses chez le producteur directement parce que ça nous permettait de pouvoir un peu sortir, prendre l'air, etc. Et c'était super. Et j'ai proposé à ma compagne, voilà, si ça lui disait qu'on reste là et qu'on essaye de s'installer ici. Et du coup, en fait, très vite, je me suis rendu compte du caractère militant, associatif de ce territoire, que j'ai trouvé super intéressant. Les gens me paraissaient super accueillants dans la rue, c'était quelque chose d'assez nouveau pour moi, qui vient de Paris, quoi. Donc c'était quelque chose d'assez rafraîchissant, je me sentais bien, et je croisais toujours ces petites pastilles qui étaient collées sur les vitrines des commerçants centre-ville de Morlaix, où il y avait marqué « Ici, je peux payer en Buzuc ». Et moi qui a un parcours qui vient du monde de la finance, et ça m'a intrigué. Donc je me suis un peu renseigné sur ce qu'était une monnaie locale, j'ai trouvé ça très intéressant, donc je suis devenu bénévole pour cette association-là. Petit à petit, un an plus tard, j'ai postulé pour devenir le salarié de l'association. Voilà.
De bénévole à salarié.
Exactement.
Et tu disais que tu étais issu du milieu de la finance. Est-ce que tu peux nous refaire un rewind, comme tu dis, sur ton parcours qui n'a rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui?
Désolé pour mes anglicismes.
Ah non, mais c'est
ça vient de quelque part, en fait.
Ouais, c'est ça. Ça témoigne de ton passé. Donc, c'est intéressant.
En fait, avant d'être coordinateur de la monnaie locale, je travaillais à la City de Londres, dans une banque d'investissement, une grande banque d'investissement, et en fait, je faisais du trading d'obligations, donc des obligations corporate et des govies. Donc voilà. Alors oui, bon, c'est les obligations des entreprises ou des États qui sont émises par les entreprises ou par les États. Donc voilà, je faisais... Je travaillais dans une salle des marchés avec des traders et voilà, j'ai fait ça pendant 5 ans. Donc c'est un petit peu un grand écart avec ce que je fais aujourd'hui.
Ouais, pas la même ambiance.
Pas la même chose du tout, pas les mêmes mondes, radicalement opposés. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé à Londres, en fait, c'était un environnement très stimulant, avec beaucoup d'adrénaline, beaucoup de pression. À un environnement très très majoritairement masculin, très concurrentiel, avec beaucoup d'humiliation parfois.
Comme dans le Loup de Wall Street, un peu en plus voilà. Film là. Ouais.
Voilà, c'est ça, il y a des parties qui sont très réalistes. Et en fait, à un moment, je sais pas, mais j'étais pas bien. Je me suis senti pas bien dans ce monde-là, alors que au final, j'avais réussi, quoi, parce que aux yeux de mes amis, de mes proches, de ma famille, ça y est, j'avais réussi, après mes études, après beaucoup d'années dans ce milieu, à faire ses preuves, et à travailler 90 heures par semaine, etc. C'est bon, j'étais embauché, j'étais associé, je gagnais très très bien ma vie, alors que j'étais jeune, mais j'étais malheureux. J'étais malheureux parce que j'étais seul. Parce que j'étais loin de mes amis et de ma famille, je vivais à Londres. Et j'étais malheureux parce que j'étais entouré par tous les autres financiers de la City. On vit ensemble, on vit ensemble parce qu'au final on vit au boulot. Et on vit ensemble parce que après le boulot, on sort ensemble, quoi. On est entouré. Enfin, c'est mon cas. Après, c'est peut-être pas tout. Je veux pas généraliser. Hein. Mais en tout cas, j'étais entouré par des personnes qui me faisaient pas du bien. Je pense, il y avait un environnement Voilà, très viril, très macho, très avec beaucoup de drogue, avec enfin voilà, avec des qui c'est qui gagne le plus, qui c'est qui a la plus belle voiture, qui c'est qui nanana. Ouais. Voilà, donc c'est pas très sain tout ça.
Ouais, superficiel aussi, enfin.
Ah oui, complètement très matérialiste, ouais. Très enfin avec des femmes trophées, avec enfin bon, c'est vraiment c'est assez caricatural, mais en tout cas, enfin moi je l'avais quand je souhaitais y aller, c'était ça mon objectif. Mmh. En effet, on parle du loup de Wall Street, mais voilà, le loup de Wall Street, c'était, je sais pas pourquoi, mais il y avait quelque chose d'un peu fou, et je sais pas, ça m'attirait un petit peu, ce monde, un petit peu hors norme.
T'avais vraiment envie d'y aller, quoi, la
oui.
City, tu...
Ouais. Ouais. Et puis la salle des marchés représentait cet aquarium, parce que c'est vrai, on appelle ça comme ça, en jargon, un peu l'aquarium, ouais. Parce que on peut pas y accéder comme ça, en fait, il y a des... Bah voilà, c'est entouré de vitres souvent, et en fait, pas tout le monde peut rentrer à l'intérieur, mais à l'intérieur, il y a ce petit écosystème qui très bruyant, où il y a beaucoup de bruit, mmh. Où les gens crient, se crient dessus, crient sur les autres.
Ouais, avec leur téléphone en train de hurler.
Voilà, l'adrénaline monte, et parfois, voilà, il y a des élans de... On sent en fait que le marché évolue, parce qu'on sent petit à petit qu'il y a de plus en plus de bruit, que les gens s'excitent, et voilà, le marché s'emballe, etc. Et après, à un moment, ça va retomber, et voilà. On est sur des journées plus calmes, etc. Et voilà, c'est assez fou à vivre, hein, mais...
Ça doit être assez grisant, quand même, enfin, j'imagine, quand on est dedans.
Oui, dire, ouais, exactement.
T'es dans le truc, quoi, enfin, t'es...
C'était, bah voilà, j'étais dans le truc pendant...
Ouais, c'est ça.
Pendant 5 ans, et en fait, au bout d'un moment, et bah, je me suis dit, mais... je sais pas, je m'y retrouvais plus. Donc, ouais. En fait... je suis parti, j'ai demandé d'abord si je pouvais être transféré à Paris, garder mon poste mais être à Paris, parce que ça me semblait un peu plus calme en fait, le marché à Paris. Donc on m'a autorisé, on m'a dit ok, il n'y a pas de problème. Donc je suis allé à Paris, et en fait après à Paris, petit à petit, c'était en fait le début d'un renoncement de ce milieu-là, où j'ai rencontré ma future femme qui elle était éducatrice spécialisée et qui travaillait avec des migrants à la rue. Donc ça a été une prise de conscience assez énorme aussi, en me disant, mais on avait des discussions le soir qui étaient un petit peu surréalistes sur nos journées respectives.
Bah oui, c'est deux mondes qui se confrontent du coup, ouais, c'est intéressant.
Voilà. Ouais, et même si moi je me censurais pas mal, parce que je me disais, mais comment est-ce que je peux parler de ma journée après la sienne? Enfin,
ah oui.
Ça me paraissait, c'était
ouais,
indécent.
Trop décalé, ouais.
Ah oui, ouais. Complètement indécent, donc... Donc ça m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, sur la réalité du monde de la finance, etc. Sur le monde d'où je venais aussi, parce qu'au final, moi, j'étais un pur produit de mon environnement. Je viens des Hauts-de-Seine, une famille bourgeoise, école d'ingénieur privé, réussite financière, donc tout va bien, et puis voilà quoi. Entouré par des amis du même milieu...
Parcours classique, quoi. Enfin,
voilà, classique, en tout cas, voilà, qui je suis resté dans les sur les rails de ma destinée, en tout cas. Mmh. J'étais destiné à ça. Mais un jour, j'ai décidé de quitter les rails, donc ça a été un petit peu dur. Enfin, ça l'est toujours, d'ailleurs.
Ouais.
Avec ma famille, mes amis, il y a eu beaucoup de ponts qui ont été coupés. Ça ne s'est pas fait en un jour, mais ça a été plusieurs années, en effet, d'introspection, d'échange, de prise de tête. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi, mais suite à ma décision de quitter le monde de la finance, il y a eu un moment d'errement, je pense, où qu'est-ce que je vais faire du coup. Et du coup, de réflexion, avec ma femme, on a décidé à un moment de quitter nos boulots respectifs, de voyager. Ouais. On est parti. Pendant un an, on a été voyager et travailler en Nouvelle-Zélande.
Ouais.
Donc vraiment, en plus, l'autre bout de la planète, c'était vraiment l'histoire de couper. Et en fait, pendant cette année-là, on a beaucoup réfléchi et on est revenu fin 2019 à Morlaix. Et là, c'est le Covid qui est arrivé. Donc en fait, on a eu encore un peu plus de temps pour réfléchir à ce qu'on allait faire dans la vie. Et en fait, beaucoup de concours de circonstances qui ont fait que ça m'a amené au Buzuc. Et j'ai trouvé ça super parce que ça faisait un lien avec ma vie professionnelle passée, de rester dans l'idée de la monnaie, l'économie. Mais tout en faisant ce grand écart, parce que c'est de l'économie alternative, donc essayer de repenser notre système économique actuel, dominant, et essayer de lui trouver des alternatives plus respectueuses du vivant.
comme l'économie sociale et solidaire, par exemple.
Exactement. Voilà, les monnaies locales s'inscrivent dans la loi de l'ESS, donc ce sont des produits purs de l'économie sociale et solidaire.
Et du coup, comment tu te sens maintenant dans ta vie pro et perso ?
Eh bien, beaucoup mieux. Beaucoup mieux, parce que... Alors, je découvre la vie pro associative, donc le monde associatif. Moi, j'étais biberonné, voilà, l'entreprise privée, aux grosses sociétés, avec beaucoup d'avantages. Et le monde associatif est radicalement différent. Il a beaucoup d'avantages aussi, mais il a aussi beaucoup d'inconvénients que je n'anticipais pas. Mais en effet, voilà, on est salarié, mais on est aussi bénévole. C'est aussi de trouver, comme on peut avoir beaucoup de charges mentales dans le privé, on a aussi beaucoup de charges mentales dans l'associatif.
Tout à fait.
Tout est un peu mélangé dans les horaires de travail, ouais. Dans nos relations, avec nos employeurs qui sont aussi des bénévoles, qui sont aussi d'autres citoyens engagés aussi. Enfin,
oui. Voilà. Ils ne sont pas spécialement formés non plus à tout ce qui est RH ou gestion du personnel. Et puis l'argent aussi, c'est toujours le nerf de la guerre en association, il faut toujours trouver des financements. Et...
Exactement.
Ouais.
Je viens d'un milieu, là, quand on était dans la banque d'investissement, c'est fou à quel point, moi la banque dans laquelle je travaillais, quand je suis revenu à Paris, j'étais dans un campus, ça s'appelait un campus, mais c'était un truc énorme avec à l'intérieur... Enfin, il y avait un petit cinéma, il y avait des boulangeries, il y avait il y avait des parcs avec des étangs, il y avait... c'est le campus à la Google. C'est-à-dire qu'il y avait des trottinettes un peu libre-service ou des vélos libre-service pour passer d'un bâtiment à l'autre, en région parisienne et tout. Enfin, c'était... Waouh, il y a de l'argent. Ben, tu passes dans le monde associatif et là, tu réalises, ah ouais, là, on fait des économies pour 3 ramètres de papier. Enfin,
c'est
ouais,
ça.
C'est pas la même chose.
On partage les bureaux parce qu'on peut pas faire autrement.
Voilà, c'est... Voilà. C'est des... Bon... Mais ce que j'adore aujourd'hui dans ma vie professionnelle, c'est le fait de pouvoir aligner mes convictions personnelles avec mon travail professionnel. Mmh. Ce qui a été vraiment très dur parce que pendant des années de réflexion avec beaucoup de questionnements sur le sens à donner à son existence en fait sur cette terre, essayer d'aligner des préoccupations personnelles etc avec son travail, c'est... Je pense que c'est une question d'actualité. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se posent des questions vis-à-vis du travail qu'ils font et parfois qui rentrent en dissonance cognitive entre leur vie perso et leur vie pro. Là, je suis content d'avoir pu réaligner ça et essayer de me battre pour une cause que je trouve juste, qui est d'essayer de faire évoluer notre système économique, qui est profondément injuste et délétère, tout en... en réussissant à côté à pouvoir vivre avec un salaire en faisant ça. Donc ça, c'est super. En plus, j'ai découvert des personnes super, avec une bienveillance aussi, une entraide que je ne connaissais pas dans le monde de la finance, et avec une confiance absolue dans la gestion de mon emploi du temps, etc. Donc ça, c'est super. Et sur ma vie perso, tout ce qui a changé, en fait, c'est tout mon rapport à ce que c'est... qui fait qu'on est heureux dans la vie. Donc c'est un gros projet, mais aujourd'hui, je considère que j'ai pas besoin de gagner autant d'argent pour être heureux dans la vie. Je considère que le bien le plus précieux, c'est le temps, et que ça, on a beau être très riche, on peut pas lutter contre ça. Donc en fait, j'essaie de me donner du temps. Donc je gagne beaucoup moins d'argent qu'avant, mais avec le temps que j'ai gagné. Parce que je travaille plus 90 heures par semaine, je travaille 35 heures par semaine, sur 4 jours, et ça c'est super aussi, je travaille sur 4 jours, j'ai beaucoup plus de temps, et en fait, je me satisfais de beaucoup moins de choses matérielles, mais je m'épanouis dans beaucoup plus de choses immatérielles, des choses liées à la solidarité, à des moments de convivialité, à du spirituel, de l'intellectuel, et voilà. Je me nourris de beaucoup plus de choses qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas acheter. Et donc je suis beaucoup plus épanoui. Voilà. Et j'ai fondé une famille, j'ai un petit garçon, et je suis un papa qui passe du temps avec son petit garçon, et ça je trouve ça super aussi. Et je ne changerai pour rien au monde. Je ne retournerai pas dans la finance parce que je veux passer du temps avec mon petit garçon.
Tu as bien raison. Pour parler un petit peu tout à l'heure de transition écologique, comment est-ce que tu envisages la transition écologique ? Alors, je sais que tu as fait un master en décroissance d'ailleurs, alors ça c'est super intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler aussi?
Carrément. Avant de devenir salarié au Buzuc, pendant enfin, le confinement, en fait, j'ai passé beaucoup de temps, voilà, comme beaucoup d'entre nous, confiné, donc j'avais pas grand chose à faire si ce n'est j'ai beaucoup lu. Je travaillais pas à l'époque, hein, je précise, c'est pour ça que j'ai pu beaucoup lire. Et c'était un privilège, et j'ai appris beaucoup de choses, et en fait j'ai découvert le concept de décroissance. C'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, parce que voilà, je travaillais dans la finance, mais j'avais aucune notion économique, et j'ai découvert ce que c'était que l'économie, et surtout j'ai découvert quelque chose d'assez exceptionnel, c'est qu'on a toute notre économie, donc ce qui est, on va dire, les règles qui basent, enfin qui régissent nos échanges sur cette planète, toutes ces règles-là sont basées sur du temps de travail, des ressources, etc. Mais en fait, on ne prend jamais en compte les limites planétaires. Et ça, j'ai trouvé ça fabuleux. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais c'est fou quand même. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on achète au quotidien est prélevé de la nature, parce qu'on n'arrive pas encore à créer par magie de la matière. Donc tout est prélevé de notre planète, mais gratuitement. On prend tout gratuitement. Tout ce qu'on paye, c'est le travail humain, l'énergie, mais qui a été, c'est du travail humain. Et en fait, jamais on s'est dit, il va y avoir une limite à notre économie, parce qu'aujourd'hui, on considère qu'on vit dans une économie sans limite, parce qu'à croissance infinie, voilà, on ne jure que par la croissance. Mais en fait, à un moment, la croissance, elle va être confrontée à des limites planétaires, parce que bientôt, voilà, il y a des ressources qui sont finies. En fait. Et quand j'ai découvert ça, c'est là où le mythe de la croissance s'est effondré. Enfin, je me suis dit, ah ouais, ça n'existe pas une croissance infinie sur une planète finie. Et donc, je me suis penché sur ce thème de la décroissance. Et à côté de cette partie économique, j'ai découvert des parties transversales et encore plus profondes qui sont le féminisme, le décolonialisme, beaucoup de choses qui expliquent cette incohérence à garder ce système, qui soit, on peut l'appeler système capitaliste, ou on peut l'appeler système libéral, enfin, si on parle d'économie, enfin, de système économique, ou alors de pensée, d'idéologie. Mais je me suis beaucoup renseigné sur ces choses-là, et j'ai fait du coup un master qui est toujours, je crois, le premier master au monde dédié à ce thème-là, de la décroissance, donc à Barcelone, où en fait j'ai rencontré des professeurs super intéressants beaucoup d'étudiants en fait, enfin beaucoup. On était une promo d'un peu plus de 30 étudiants, mais qui venions du monde entier. Donc c'était très enrichissant de rencontrer d'autres personnes de tout âge, parce qu'il y avait des gens de 50 ans et des élèves de 20 ans qui venaient de New York, ou qui venaient des plaines de Mongolie. Donc on se rencontrait et on amenait tout notre bagage, et c'était super enrichissant, autant que les cours en fait. Donc j'ai appris beaucoup de choses pendant cette période-là, et en fait c'est venu vraiment m'ancrer dans un autre paradigme que celui duquel je viens, qui est en fait il y a beaucoup de choses à changer dans nos sociétés. Et en fait, je ne peux plus revenir en arrière aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que la transition écologique pour moi? Je ne sais pas s'il y a une transition, des transitions, ou si même il y a une transition, si on peut parler de transition, parce qu'il y a eu des transitions dans l'histoire, mais on voit qu'en fait, il n'y a jamais vraiment de transition. On ajoute, si on parle d'énergie, en tout cas, on ne fait qu'ajouter des systèmes énergétiques différents les uns aux autres. En tout cas, moi, quand on parle d'écologie aujourd'hui, je crois qu'on réduit beaucoup surtout à la question des émissions de carbone. Au réchauffement climatique, et je pense que c'est une grosse erreur, mais je pense que c'est une erreur qui est voulue. Je pense que il y a beaucoup de personnes intelligentes sur cette planète. Je pense que si on veut se concentrer autant sur le réchauffement climatique, c'est qu'il y a des choses à côté qui dérangent. Et c'est vrai que quand on s'intéresse par contre à l'effondrement de la biodiversité, là c'est plus difficile de trouver des solutions, et c'est des sujets encore plus vastes et qui demandent peut-être encore plus de transformation de nos sociétés. Donc, en effet, moi, ça me dérange un peu. Enfin, en tout cas, l'écologie, c'est un mot que je trouve noble, mais qui a tendance à être un petit peu dévoyé. Mais il devrait intégrer beaucoup plus que, je pense, ce qu'on veut dire aujourd'hui quand on parle d'écologie. C'est-à-dire que l'écologie, c'est pas juste faire des potagers partagés ou machin, même si c'est très bien. Voilà. Je répète une phrase que j'aime bien dire souvent, mais d'un syndicaliste brésilien qui dit que l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. J'aime bien, ça me fait un peu rire, mais voilà, je trouve que ça résume bien les choses. Aujourd'hui, si on est confronté à tous ces enjeux-là, bah, c'est parce que c'est avant tout politique. Ça ne tombe pas du ciel. Tout ça, c'est des choix politiques qui ont eu lieu sur les dernières décennies. On sait aujourd'hui qu'il y a 50, 60 ans, et ben on savait déjà qu'en brûlant les énergies fossiles, et ben ça nous amènerait à ça, etc. etc. Mais il y a eu des choix de pas en parler, de pas faire de ça notre priorité. Donc voilà, pour moi, l'écologie, c'est l'écologie politique. Donc voilà, c'est politique l'écologie. C'est pas un gros mot. Ça veut pas dire parti politique. Ça veut dire politique dans le sens où les citoyens doivent aussi avoir leur mot à dire sur le monde dans lequel ils évoluent. Et du coup, il faut remettre du politique dans l'écologie. À un niveau personnel, moi, je m'engage au quotidien et je m'engage pour faire de ça une lutte. J'ai beaucoup appris depuis ces dernières années et je vois que le consensus est le meilleur ennemi du changement et je pense qu'il nous faut un changement radical. Je pense que les générations futures auront beaucoup de choses à reprocher aux générations précédentes. Malheureusement, voilà, je veux pas retourner les générations les unes contre les autres, mais en effet, voilà, il faut penser aux générations futures. Il y a notre avenir, quoi. Pourquoi ? Donc aujourd'hui, pour faire de la politique, si l'avenir de l'humanité, c'est nos chers milliardaires le souhaitent, enfin les hommes les plus riches sur notre planète, donc ceux qui sont concrètement les bénéficiaires de notre système économique, eux, ce sur quoi ils s'investissent, c'est d'aller coloniser Mars. Ben, si c'est ça l'avenir de l'humanité, c'est d'aller penser qu'on va quitter une planète infiniment riche en termes de biodiversité, de géologie, enfin c'est un paradis quoi dans l'espace, pour aller sur une planète invivable, inhabitable pour l'homme, avec des températures auxquelles on ne peut pas survivre, avec pas de vie quoi. Et donc du coup d'aller s'enfermer dans les je sais pas quoi, des compartiments, j'en sais rien, de vivre sous terre ou voilà. Si c'est ça l'avenir de l'humanité, eh ben moi j'ai envie de lutter pour qu'on puisse rester sur notre planète et puis vivre. Notre planète, elle continuera, mais nous, est-ce qu'on pourra rester dessus? Je sais pas.
Pas sûr.
Voilà, donc je dédie le restant de ma carrière professionnelle et de ma vie personnelle à lutter comme possible, en essayant à côté, en plus, de m'épanouir, ce qui est très difficile.
T'es quand même assez optimiste finalement, enfin, t'as quand même envie de te bagarrer encore, quoi.
Ouais, alors ça dépend, ça évolue tout le temps. Il y a des moments où j'ai envie de me bagarrer et après des moments où j'en ai marre. Mais ça évolue. Enfin, ça change, ça revient, c'est cyclique. Et il y a des moments où tu te dis, ok, je suis super motivé, ça sert à quelque chose. Des moments où ça sert plus à rien. Des moments où t'es fatigué parce que rien ne bouge, rien ne changera. Tu luttes contre un truc tellement énorme.
Bah, c'est ça.
Que tu te dis, à quoi bon? Et puis d'un autre côté, moi aussi j'ai envie de continuer à être heureux. J'ai envie d'avoir du temps, j'ai envie d'aller voir la mer ou la montagne, des trucs, voilà. Et ça c'est plein d'incohérences écologiques.
Oui.
Voilà, donc il y a aussi, à côté de tout cet apprentissage sur quel monde on veut, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de s'inscrire dans une trajectoire soutenable, et en même temps de se ménager, parce qu'il faut qu'on puisse garder du plaisir, du bonheur à le faire, de l'énergie, etc. Donc c'est une gymnastique quotidienne. Mais ce qui est super, c'est qu'on peut la partager avec de plus en plus de personnes. J'ai l'impression qu'il y a quand même un élan, même si c'est long. Même moi, ça a été long. Au final, je me dis, il m'a fallu 5 bonnes années, je pense, pour changer. Voilà. Après, j'ai fait un grand écart, vraiment. Ah, mais je ne suis pas le seul, et il y en a plein d'autres qui le font.
De plus en plus.
Voilà. Oui. Et je me sens tout petit à côté d'autres personnes qui le disent depuis 50 ans. Je me dis, oh la vache, comment j'ai pu perdre autant de temps comment j'ai pu perdre du temps à faire ça, quoi, à faire de la finance, à faire des trucs qui me paraissent aujourd'hui tellement futiles. En tout cas, aujourd'hui, Je suis content du chemin que j'ai effectué pour arriver dans une ville à taille humaine, avec la nature à proximité, des espaces, de la mer, avec de se créer une communauté d'entraide, à créer des moments forts de convivialité, à fonder une famille, à prendre du temps. Il n'y a rien de mieux que ça, plutôt que d'être à la City de Londres, entouré, dans un aquarium devant 6 écrans, à regarder que des chiffres, 90 heures par semaine. Donc voilà, vous aussi, si vous m'entendez et que par hasard vous êtes à la City, fuyez.
Il est encore temps de partir.
S'il y a beaucoup de traders qui lisent Éco-Breton,
fuyez. Pas, peut-être.
Ce sera la meilleure décision de votre vie. Et du coup, en plus, je trouve qu'il y a une convergence, écologie, le féminisme, je trouve que c'est un autre pan de ma vie qui m'a...
Ah oui?
Ah ouais, que j'ai... Enfin, aujourd'hui, c'est pareil, c'est quelque chose d'aussi important que l'écologie, parce que je l'ai découvert dans mon master, mais j'ai lu des autrices féministes, mais c'est hallucinant à quel point ton regard change après, surtout, quoi. Le décolonialisme, pareil, c'est... Quand tu me poses ces lunettes-là, je me dis, mais comment on peut voir après? Enfin, c'est assez hallucinant. Donc, en effet, tout est question de lutte aujourd'hui.